RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Simone Rovera, Philippe Auclair, Fred Hermel. Autant dire que là, il y a du lourd. tout à l'heure, il y avait Ranieri et Bernardo Silva dans Team Duga. Là, il y a Rotten, Riolo, Rovera, Hermel, Auclair.
C'est du casting.
Je pense que
c'est du vieux aussi, quand même.
En parlant de casting,
il y a un peu de vieux, il y a quelques vieux, du bon, du moins bon, mais bon, l'essentiel, c'est de faire un.
L'essentiel, c'est que
il y a un petit jeune qui est arrivé il y a quelques années qui essaie de faire ses preuves, quoi.
En parlant de casting, quand il y a des matchs comme ça où on se fait un peu chier, ça permet de penser un petit peu à autre chose. Vous avez vu Vincenzo Montella? Vous avez vu à qui il ressemble ou pas? Vous vous souvenez de cet acteur mythique des années 80-90 là,
Michael J. Fox?
Non, Kyle MacLachlan.
Kyle MacLachlan.
MacLachlan, ouais, qui était dans Blue Twin Velvet, Peaks. Twin Peaks.
Voilà, franchement, alors là.
Ah, si, ouais. Super,
ah, ouais,
cool. Tu vois sa tronche, tu dis c'est lui.
Ah,
c'est
promis.
Si. Et dans ce film, que beaucoup considèrent nanar, mais qui plairait à Fred Hermel, Showgirl.
Showgirl.
Showgirl, très bon film.
Tiens,
je vais me le faire ce
vous
soir.
Vous avez pas provoqué quelques émotions chez Jérôme.
Vous savez pas, c'est cet acteur qui avait cette tronche de vicieux, un peu ambigu, toujours dans les coins
Il a joué également dans l'adaptation de Dune.
Exactement, il était dans Dune, c'était un de ses premiers rôles.
Simonier regarde que les trucs avec des requins qui volent,
je sais pas quoi. Sharknado. Il est spécialiste de la.
Il est pas niveau des Sharknado.
Je veux dire, ils ont sorti quel numéro Sharknado, le 5, 6,
5,
5, le 5 est sorti.
Je pense que,
je sais pas si je crois que ça fait partie des films préférés de Trump.
Ah oui?
Ouais, il en avait parlé.
Il devait jouer,
j'ai l'impression, dans les
soutenu
trois.
Soutenu par le Mexique.
Trump. Il devait jouer dans les trois.
Comment ça, il devait jouer?
Il devait être.
Il devait être acteur dans le 3, dans le numéro 3.
J'ai l'impression.
C'est pas impossible, il me semble qu'il y avait une histoire entre ça.
Bon, revenons à la Ligue des Champions.
T'as jamais vu, Jérôme Sharknado, toi?
Si vous le voulez,
non.
Les requins qui attaquent la ville et tout, tu l'avais vu?
Non, j'ai
pas. Ils sont pris dans un tourbillon comme ça?
Non, je laisse ça à Simone.
Je te le conseille pas. Hein.
Non, mais je sais, c'est pour ça.
Mais c'est intéressant.
C'est intéressant.
Non, bah écoute, t'as une heure et demie, tu te remates.
Non, mais c'est pas une heure et demie pour ça.
Hein. Tu te regardes. C'est dit, Manchester United.
Je vous pose une question.
Je regarde un autre film.
Est-ce que vous croyez que dans Le Masque et la Plume, ils sont les délires sur le foot quand ils voient que des films de merde? Comme nous, on le fait à l'inverse.
Je sais pas.
Moi, je pense pas, moi.
Je sais pas. Non.
Bon, ouais.
Les Showgirls, c'est pas un film de merde.
Hein. Non, ça suffit.
Désolé.
Mais non, il a pas dit ça. Il a dit quand eux, ils doivent parler de trucs et ils ont vu dans la semaine que des trucs de merde. Est-ce qu'ils parlent de foot comme nous quand il y a un match pourri? Est-ce qu'on parle de film?
Je pense qu'on parle de foot tout le temps, en fait.
Bon, évaluation. Pogba, bon match ou pas bon match au final? Alors on a annoncé avec un virus. Alors là sur le.
Moi, je ne critique plus les joueurs de Manchester.
Je ne sais pas ce que vous leur demandez.
Paul Pogba, deuxième période, plutôt intéressante, plutôt propre.
Il joue quand même en marchant. Un jour, j'aimerais bien le voir un peu courir.
Écoute, si il était vraiment grippé, il revenait d'une grippe ou je ne sais pas trop quoi, ça se comprend.
Non. Qu'il n'y a rien pas de ça.
En tout cas, quand il est entré sur le terrain, en deuxième période, quand il est devenu un peu plus Pogbien, on a vu des choses qu'il a menacé. Il est monté en puissance, mais il n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain pour Manchester United. Le meilleur joueur sur le terrain pour Manchester United, en dehors de David De Gea, a été Scott McTominay. Bon, de loin, je dirais même. Et ce qui est quand même... Un peu bizarre.
Écoute-moi,
depuis quelques jours, Philippe ne parle que de lui là, Matthew McConaughey. T'es tombé amoureux. Moi,
qui est Grominet là?
McTominay. C'est la première fois que je parle de lui, probablement de la saison.
Bah pas du tout. Je t'ai entendu en parler dans Team Duga.
Non, c'est parce que.
Non, mais on a le droit d'aimer.
C'est un petit jeune. Il défend les petits jeunes. Il aime bien les petits jeunes. Il a le droit.
Non, parce que José Mourinho avait donné Scott McTominay comme exemple du type de joueur qu'il aimait, à savoir pas de tatouage.
Oui,
pas de
parce qu'il avait,
C'est la seule raison pour laquelle nous en avions parlé.
Bon, les tatouages et les grosses poules, ça peut venir. Hein.
Non, bon, après. Nous parlons de la performance, elle a été de très grande qualité. Cela dit, voilà, c'est pas ça qui sont nécessairement. Je viens d'ailleurs d'entendre José Mourinho, s'exprimer. Au micro de camarades de BT, je peux pas vous dire qu'il ait dit grand chose, simplement qu'une victoire suffirait au match retour. Il avait l'air très satisfait.
Oui, c'est normal.
Il est dans son truc.
Moi, je voudrais revenir sur le match de Pogba. Oui, son entrée. Alors, c'est pas facile rentrer au bout d'un quart d'heure comme ça quand c'est pas prévu. On a senti la première mi-temps, il était en difficulté comme l'ensemble de son équipe. Mais sur la deuxième mi-temps, dans la bonne période, du moins la meilleure période de Manchester United, c'est aussi grâce à l'activité de Paul Pogba.
Absolument.
Et là, je te rejoins pas, Daniel, quand tu dis j'ai envie de le voir courir. Je suis désolé, sur les 20 dernières minutes.
Non, je t'ai dit, je ne critique pas les joueurs de Manchester.
Non, mais je ne peux plus.
Attention, déclaration de Mourinho à l'instant, que nous relaye Elisère. Et en plus, il y a l'image avec le son, magnifique. Mourinho déclare, si j'étais vous, je parlerais un peu moins de Paul et de ses performances, je parlerais un peu plus du match de McTominay.
Ouais, mais c'est sûr. Bah,
en fait, c'est Philippe Auclair a appelé José, il a dit, tu pourrais dire ça, s'il te plaît. Et José, il a dit.
Aujourd'hui, je suis désolé.
Non, mais regarde, Zonzi fait un meilleur match que Pogba. Banega fait un meilleur match que Pogba.
Jérôme, deux secondes quand même, attends, je te parle pas. Je t'ai pas dit que Pogba avait été exceptionnel.
Moi non plus, je te dis, est-ce que Zonzi et Banega ont été meilleurs que lui?
Mais tous les joueurs de Séville, tous les joueurs de Séville aujourd'hui, ballon au pied, ont été meilleurs que les joueurs de Manchester United.
Merci, donc tu me l'accordes.
Maintenant. Moi je veux bien qu'on me parle de McTominay. Bien sûr, c'est une découverte. Et je trouve qu'il s'est bien adapté dans une situation qui était pas facile ce soir par rapport à son manque d'expérience et tout ça. Il a fait son match. Maintenant, excuse-moi, mais j'en ai pas plein les yeux de McTominay quand il touche le ballon. Je préfère avoir un Paul Pogba sur les 20 dernières minutes.
Plein les yeux de Gros Minet. On souligne parce qu'il est jeune.
Mais excuse-moi, mais Mourinho quand il te dit ouais, parlez-moi plus de McTominay. Ouais,
mais parce que c'est son gimmick en ce moment.
C'est son jeu.
C'est son truc en ce moment.
Mais oui.
C'est son rôle. Non, il a. C'est pas son rôle.
Il faisait à l'Inter. C'est son truc. Mais la saison, il gagne tout.
Il le fait.
Il disait, regarde un gamin qui, au niveau des autres, il le fait à chaque fois, donc je suis obligé de laisser faire.
Mais tu le connais maintenant.
Ouais, dénonce-le, Jérôme. T'as raison, dénonce un peu là.
Moi, j'ai envie de voir, de m'éclater Et là, je te dis que là, Paul Pogba, sur les 20 dernières minutes, je suis désolé, c'est lui qui a éclairé le jeu de Manchester United, que ça vous plaise ou pas. C'est comme ça.
Éclairé.
Non, mais éclairé. Un petit lampadaire. C'était un lampadaire.
McTominay aurait pu jouer avec Titi Henry. Non, bah évidemment, ça. C'est pas de moi, c'est sur le hashtag.
Ça veut dire bien.
Ah, c'est pas mal.
Corentin, notre Corentin.
J'allais dire, Corentin a réellement vu 3 Dijon.
Il envoie un message, j'ai dit. Je te confirme, Gilbert, j'ai vu en direct 3 Dijon.
Ouais, en direct. Nous, on veut quelqu'un qui l'a enregistré, qui l'a regardé en
rentrant. Ce mec est un fou. Il sera avec nous demain soir, Corentin, comme tous les jeudis. Bon, autre chose à rajouter sur...
Mais quoi, ce mec est un fou. Mais arrête, toi, de dénigrer comme ça. T'as pas le droit de regarder 3 Dijon. Non, mais attends. Pas parce que tu l'as pas vu.
Ça aurait été
un Strasbourg-Dijon.
La même affiche qu'un 3 Dijon, t'aurais dit, moi j'ai regardé un Strasbourg-Dijon. T'as prévu des vacances?
Mais non, c'est pas moi les vacances.
Jérôme, t'es nerveux. T'es dans l'indignation permanente. Calme-toi.
Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ça la semaine dernière, Jérôme. Jérôme, toi et moi, tu sais, il faut qu'on se retrouve. Viens passer quelques jours à Madrid, on va finir pote, je te le dis.
Bon là, si tu vas à Madrid, oui, là, tu vas voir comme t'es reçu, là.
Me prends pas par les sentiments, parce que je vais venir dès demain, tu vois.
Ah ouais, mais quand tu veux, il passe la maison, Daniel a déjà dormi. Gilbert aussi.
Tu fais la tournée des Grands-Ducs. Hein.
Ah bah ouais.
Alors,
ouais.
On va parler de Shakhtar
Roma. Et parfois,
Roma.
Si t'es sympa, des duchesses.
On va parler de Shakhtar Roma.
C'est plutôt le but, non?
Vous permettez qu'on parle de Shakhtar Roma?
Ouais, vas-y.
Alors, juste avant, un mot du Real, qui jouait ce soir, Fred, à Leganés.
Match en retard, même un soir de Ligue des Champions, quand le Real joue pas, il trouve le moyen de parler du Real.
Bah, mais le Real a joué, c'est normal.
Oui, parce que le Real, ayant joué le Mondial des Clubs en décembre, il y avait ce match en retard à Leganés. Rappelez-vous, Leganés qui avait quand même éliminé le Real Madrid en Coupe du Roi il y a 3 semaines, un mois. Bon, on a vu un bon Real, enfin, il manquait plein de joueurs. Les 3 blessés que vous connaissez, Kroos, Modric et Marcelo. Bale était sur le banc, Cristiano Ronaldo était en repos. Il était au Portugal et on a vu encore une fois un très bon Lucas Vazquez, un bon Benzema, un bon Asensio, un bon Isco, un bon Varane et puis une victoire tout à fait logique d'un Real qui petit à petit, bon 3-1, un Real qui petit à petit continue son opération de remise en forme. Ils viennent d'enchaîner 4 matchs de suite avec des victoires en marquant beaucoup de buts. C'est reparti. C'est pas extraordinaire, mais ça va un petit peu mieux. Il sera au quinch. Voilà. Donc
il y a un super deuxième but du Real.
Ah oui, avec la combinaison Benzema, ouais, qui est une lucidité, enfin, ouais, avec le 1-2.
Non, mais même, ouais, la complicité des trois joueurs sur le but de Casemiro, c'est ça, c'est lui qui marque.
C'est Casemiro, donc ouais. Lucas Vázquez, Benzema, et même quand il combine avec Isco et avec Asensio, bah, ça joue à une touche de balle et c'est beau à voir, quoi.
Mais c'est vrai que pour, bon, après, la qualité de l'adversaire, bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, là, mais Asensio, il fait quand même énormément de bien entre son entrée qui a été décisive contre le PSG et là encore son activité aujourd'hui. Alors bien sûr Lucas Vázquez a été un ton au-dessus, mais
un but, une passe décisive.
Ouais, mais Asensio il fait beaucoup de bien. Je pense qu'Asensio dans ces prochaines semaines il a vraiment une place de titulaire à gagner, quoi.
Mais d'ailleurs et je terminerai là-dessus, ça va dépendre des absences au milieu de terrain. Mais Asensio aujourd'hui
parce qu'il paraît qu'ils sont tous malades et que jusqu'à la veille ils seront peut-être tous blessés les 11, mais que le lendemain peut-être pas.
Mais, ben, c'est-à-dire, alors pour t'expliquer, parce que j'ai dû faire un tweet un peu, ils ont bobo. Enfin, tu l'as lu le tweet, ils ont bobo. Non, mais ça, ben, on va parler à quelqu'un qui a joué, qui connaît. Jérôme, une déchirure musculaire de grade 1, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est 10, 15 jours.
Ouais, c'est que dalle.
Mais le problème, c'est que.
Ah, Jérôme était jamais blessé quand
c'est pas assez grave. Laisse-moi expliquer, Daniel. C'est pas assez grave pour dire, ils seront pas à Paris. Mais c'est suffisamment pour dire, il y a une incertitude qu'on aura présence à Paris.
Ah, ben, bien sûr. Ah ouais. Mais ça, après, en plus, tu peux, grade 1 ou grade 2, c'est toujours pareil. C'est tellement,
nous aussi, avec Gilbert, il y a incertitude. On peut être malade la veille et pas être dans l'after le soir même, mais il y a quand même de grandes chances qu'on soit là.
Les fibres musculaires.
On a vu les after malades.
Les fibres musculaires.
Daniel qui part aux toilettes en courant, je l'ai vu, moi.
Moi, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça.
Je suis un peu
tout seul. Semaine dernière, je crois.
Mais pour parler des
excuse-moi. Non, mais fibre musculaire, tu veux dire que j'ai terminé ta phrase parce que t'as du mal parce qu'on t'embête là-bas. Tu veux dire que le problème, c'est que tu peux mettre un mec qui a l'air bien, il joue 10 minutes et il se pète à Paris alors qu'il y a peut-être un match avec prolongation, c'est ce que tu veux dire?
Exactement.
Alors, ça, je sais pas si j'ai jamais envisagé qu'il pouvait y avoir prolongation quand même. Et pourtant, si. Non, mais c'est vrai.
Mais comme vous savez que lors du match.
Rappelez-vous, Diego Costa, qui a une blessure musculaire, qui insiste, qui est tout juste pour jouer. Finale de Ligue des Champions en 2014. Il se pète au bout de 10 minutes. Ça loupe un changement. Il y a la prolongation et il y a Juan Fran qui se pète et il est obligé de rester sur le terrain parce que l'autre, il avait fait tous ses changements, Simeone. Et donc, on se retrouve avec un Real qui gagne aussi cette Ligue des Champions à cause d'une blessure musculaire qui était prévisible en première période.
Merci Fredo.
Adios Chicos.
Salut Fred.
Philippe, avant que tu partes, j'ai un tweet de Patrice Aigra
ils sont déchaînés.
Qui nous dit, mais parlez quand même de Lukaku. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Lukaku?
Tu veux dire de Lukaku? Le pauvre, il est devant là et
il fait ce qu'il peut.
Il court, il se bat.
Il gagne des duels aériens.
Il essaye de lutter un contre trois, mais c'est facile quand il met son corps, personne peut approcher.
Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Il a une demi-occasion. Il fait un contrôle du haut du bras et il marque ensuite et un but qui est logiquement refusé. Qu'est-ce que tu veux dire de Lukaku?
Autant certains joueurs, tu peux pas se cacher derrière Mourinho. Mais
le geste technique de sa reprise de volée.
Qu'est-ce qu'elle a? Le geste technique quand il contrôle de la main.
Non, l'occasion.
Ah non, mais c'est un manque de confiance. Il doit le prendre avec les lacets, avec le coup de pied, et il le prend de l'intérieur et il balance ça.
Si Lukaku, ça n'a jamais été sa technique, son point fort.
Oui, non, ça c'est sûr.
C'est un excellent finisseur.
Ouais,
c'est quand même. Pour être un excellent finisseur, il faut être aussi un
poids lourd de gosse. C'est impressionnant. C'est sûr que c'est ce que je disais quand il fait la main. Et comment tu veux, quand il a le défenseur comme ça, avec son bras qui protège le ballon, le défenseur, il est dans son dos, le défenseur, il peut pas intervenir, quoi. Il est tellement costaud que c'est le gros point fort de Lukaku et de l'équipe de Manchester. C'est physiquement, c'est une énorme puissance. Le problème, c'est que oui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire? Il est tellement esselé en première mi-temps.
Oui,
il reçoit le ballon entouré de 3-4 joueurs. Mais déjà, c'est pas un mec qui va être très très bon dans ses démarquages. Tu vois, il a besoin du duel.
Quel âge il a, Lukaku?
24 ans seulement.
Il est jeune, je sais pas. Bon, après, techniquement, il est pas méga habile.
Mais il a progressé cette année, quand même.
C'est ce que j'allais dire.
Il a énormément progressé dans son apport au jeu.
Petite comparaison un peu hasardeuse, mais au tout début de sa carrière, Drogba avec les pieds, parfois c'était flippant. Et petit à petit, c'était assez sidérant la façon dont il a, au début, il était vraiment, c'était le physique imposant, déménageur, machin. Et c'est rare parce que la technique, normalement, c'est bouclé jeune, quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas là que tu progresses vraiment le plus, quoi. Ouais, ouais. Mais Drogba avait fait des progrès, mais j'avais trouvé incroyable, même techniquement. C'est la façon dont il frappait le ballon était devenue meilleure. Bon, il avait que un ou deux dribbles, mais à la limite, on s'en fout, quoi. Il était devenu très complet. Alors peut-être que Lukaku peut progresser encore de ce côté-là. Déjà, je trouve qu'il est un peu plus habile que au début quand on l'a vu arriver, où c'était vraiment pied carré. Là, je trouve qu'il avance un peu, en tout cas.
Merci Philippe.
Merci à vous.
Salut Philippe.
Tiens, tu parlais de Drogba, il était aujourd'hui à l'Elysée avec Mbappé, George Weah.
Je crois que t'avais un paquet de légendes.
Et Drogba, Jimmy Weah, Adjovi beaucoup. Parce qu'il fallait un défenseur.
Jimmy Adjovi-Boko est une autre légende, parce que c'est un type génial et pour son assos Diambar, c'est formidable. Voilà.
Ils étaient tous à l'Elysée avec Georges Weah, reçu visite officielle par Emmanuel Macron. On l'entendra tout à l'heure, tiens, si on a le temps. Avant de parler de Shakhtar Roma, j'ai juste un petit tweet de Franck qui nous dit non. Dans le masque et la plume, quand il y a Expendable 18 et Mission Impossible 20, ils n'en parlent pas. C'est comme vous pour 3 Dijon. Ben oui. Excellent. Alors, la Roma, Simonet, la Roma qui s'en sort bien. Hein.
Ouais, s'en sort bien.
Carte 2-1, mais ils s'en sortent bien.
Oui, il faut dire ça parce qu'au final.
Il revient avec un bon score, c'est un bon score 2-1. Enfin, c'est un bon score, c'est pas mal.
Alors, si tu le regardes, les scores.
Ouais, attends, non, mais Daniel, arrête de me dire 2-1, c'est pas mal. En quoi c'est un bon score 2-1? Tu perds le match, tu me dis que c'est un bon score.
C'est mieux de gagner. Oui, c'est mieux de faire match nul. Mais quand tu perds 2-1 à l'extérieur en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui n'est pas un monstre. Bah, ça va, tu peux te dire que tu vas t'en sortir.
Le problème, c'est que l'équipe, tout l'a fait devenir un monstre.
Surtout qu'en plus, t'aurais pu
le prendre 3, 4. Voilà. C'était une deuxième mi-temps qui était un cauchemar.
Dans le contexte, c'est un bon score. Dans ce contexte-là, c'est un bon score. Non, mais Jérôme, vu de ce match, c'est un bon score, j'insiste.
D'accord. Parce que le match
bon score, résultat.
Je préfère quand t'es précis, quoi, tu vois.
Non, mais la
faut toujours
chercher...
tout remettre dans le contexte.
Oui, la Roma, ce qui est sorti de contexte, c'est le match de la Roma qui, après avoir mené, je dis même logiquement, parce que la première mi-temps était équilibrée, mais la Roma a eu ses meilleures occasions. Après avoir mené au score, après avoir potentiellement pensé d'avoir fait la chose plus difficile, est totalement sorti du terrain. Moi, j'ai vu presque un parallèle malheureux entre le match de la Roma, celui de la Juve, qui a fait un pas en arrière, deux pas en arrière, trois pas en arrière, en laissant Tottenham, la Juve, bien sûr, Shakhtar, ce soir, rentrer dans son camp. Et après, ils ne sont pas réussi à en sortir. J'ai l'impression que, oui, c'est plus simple de faire ça en Serie A. En Europe, c'est un autre discours. Mais la Roma était arrivée avec une ambition d'aller jouer, surtout de finir haut. C'est-à-dire, selon les idées du staff de la Roma, de Di Francesco, c'était un match que la Roma aurait pu gagner dans les 30 dernières minutes, avec une meilleure condition physique, avec une baisse des formes d'une équipe ukrainienne qui a repris ce week-end après 2 mois de stop. Au moins, ça, c'était...
Alors, sans en parler, il faut arrêter avec la légende des Ukrainiens et des Russes qui reprennent tard. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils sont bons.
Oui.
Lokomotiv, ils ont mis une danse à Nice. Là, t'as le CSKA, c'est qualifié.
Ah oui, mais t'as
le Shakhtar.
C'est un peu fini.
Après,
ce soir.
Je te dis que c'est peut-être la préparation a tellement changé qu'il reprend très très bien. Je te dis que aujourd'hui, si tu lisais un peu les journaux italiens, tu disais les plans, c'est les 30 dernières minutes d'avoir les opportunités, dernière rage, les moments décisifs de match vont être 30 dernières minutes où la Roma.
Regarde une année, Jérôme, ils pensaient passer contre les Ukrainiens, Kiev. Ils sortaient du froid et tout, ils n'ont pas gagné.
Dommage. C'était un match retour. Ah ouais, mais bon, il y avait pompe à vélo dans les buts.
Et ici, dans les buts, t'avais un grand gardien, par contre. Fallait dire.
C'est vrai, il était inspiré ce soir-là. Autant il a été inspiré sur des matchs, mais... Là, le gardien, la Roma, était inspiré ce soir.
C'était Michael Landreau. Ah oui, il a sauvé la Roma.
Bah, les gardiens de la Roma, je pense
Alisson.
Alisson Becker, c'est déjà c'est
j'adore
le gardien
son nom.
Titulaire.
Ah, je trouve le nom formidable. Ouais, Alisson Becker. Pour moi, c'est génial comme nom.
Gardien titulaire.
Il est brésilien,
allemand.
Il est brésilien avec des grands-parents qui étaient allés se cacher. Ça existe. En Amérique du Sud, quand il y a un nom allemand, forcément.
Alors, figure-toi qu'il y a une immigration allemande antérieure à la Deuxième Guerre mondiale, très importante en Amérique du Sud. On ne le sait pas souvent.
Ah non, tu fais bien de dire.
Voilà. Peut-être que finalement, Heinze et autres Becker.
Kuerten.
Et autres Kuerten n'étaient pas forcément des descendants de nazis. Faut se détendre.
Ah bah moi je me détends, tu vois, c'est l'histoire. Ils sont pas responsables de.
Ah bah exactement.
Les grands-parents qui sont allés.
Qu'est-ce que tu veux, non, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ça. Bah on me regarde pas comme ça.
Attends. Donc l'Aroma s'en sort bien pour un très bon gardien.
Sur l'Aroma, putain, avec ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, t'es un peu
long. T'as lu la disparition de Mengele, c'est livre pour toi ça. T'as qu'adore le sujet.
Écrit par un grand supporter du Racing Club de Strasbourg.
C'est pour ça que je dis ça. Non mais quand on en a pas parlé. C'est extraordinaire.
Olivier Guez, de Racing l'autre jour, il était là.
À Strasbourg ?
Ouais, pour match de Bordeaux.
Forcément, il est là-bas.
Il est là. Bon, reprenons. Va, vous disiez Alisson Becker. Alors, on discute.
Non, mais Alisson Becker.
Non, les choses bien. Les gardiens, et c'est malheureux de les dire parce que la Rome a perdu. Les choses mal, Dzeko a eu des énormes opportunités en première mi-temps, on peut les a ratées. Il s'est refait un peu avec la passe pour.
Un peu bon. Il fait une super passe sur le but.
Oui, après, quand tu es deux fois devant la gardienne et tu le rates, c'est pas la meilleure saison des Dzeko cette année. Hunder, la bonne nouvelle, encore une fois décisive, 5e but dans les 4 derniers matchs, pour un joueur qui était presque inconnu, même il y a un mois et demi, parce qu'il jouait très peu. Il est arrivé cet été, mais arrivé pas à s'imposer. Il y a vraiment peu de choses à sauver ces soirs de la Roma. J'ai trouvé De Rossi et Strootman vraiment inexistants dans la façon où tu dois défendre, tu choisis de défendre un résultat. Tu as besoin que les doigts milieux soient performants. Et là, j'ai revu vraiment l'histoire.
Moi, je veux croire qu'on quand même se qualifier.
Tu peux te qualifier, ouais, mais déjà, tu dois gagner. C'est-à-dire.
Oui, merci Simone, je sais compter.
Non, mais quand tu sors d'un match comme ça, où tu risques de prendre les troisièmes, et tu as vraiment eu chaud.
Bah, c'est pour ça que je dis ça, je les vois bien. Ouais.
Moi, je suis d'accord avec Daniel sur le fait qu'ils ont tellement souffert en deuxième mi-temps qu'ils s'en sortent bien avec ce score, mine de rien. Alors, c'est un mauvais résultat. Mais il y a la stratégie qui sera complètement différente au retour, déjà.
Ouais, possible.
Voilà, poussée par leur public. Ils ont quand même des joueurs qui sont capables de faire mal à cette équipe de.
Mais en théorie, t'as des joueurs aussi qui devraient être capables de gérer un match que tu gagnes 1-0, où tu dois pas jouer à un rythme énorme, parce que aussi dans les Shakhtar n'est pas joué à un rythme impressionnant.
Non, mais je pense
toujours moins de degrés, c'est pas.
Non, mais je pense qu'ils se sont fait surprendre dans le sens où la première mi-temps était bonne de la part de la Roma, où ils ont dominé, ils se sont créés des grosses occasions que. Quand ils sont rentrés au vestiaire, ils se sont dit, mais en fait, c'est facile aujourd'hui.
Comme la saison dernière face à Lyon, ce que disait pendant les matchs, la Roma fait un très bon première mi-temps, pense d'avoir maîtrisé le sujet, et n'arrive pas. Et quand tu as des joueurs quand même des qualités et d'expérience, comme De Rossi, comme Strootman, et les mêmes Dzeko, t'as pas les droits. Après, t'as Florenzi qui a eu la fièvre dans les derniers deux jours jusqu'à cet après-midi, était incertain. Donc, oui, il est
fait. Florenzi, il y a quand même des gros clubs qui vont aller le chercher parce que les latéraux, ça court pas les rues.
Alors,
il faut le chauffer lui, quand même.
Florenzi, je pense qu'il a été un peu aussi été déstabilisé dans les derniers jours. Donc, il y a un contrat qui termine en 2019, il a pas prolongé. Depuis deux jours, il y a la une de Tuttosport qui dit qu'il y a un contact entre Florenzi et la Juve. Et hier, il devait aller
Florenzi à la Juve, putain, les supporters. Romain, ce qui termine cette histoire
parce que c'est intéressant. Hier, Florenzi devait aller en conférence de presse, c'était prévu. À un certain moment, on dit non, Florenzi a la fièvre, elle ne peut pas venir en conférence de presse, on met De Rossi. Donc, on a même l'impression qu'on a cherché des protégés en rapport au chaos médiatique qu'il y a eu dans ces
derniers
jours.
C'est un vrai Romain, lui. S'il va à la Juve, s'il va faire de la peine à des gens.
Bien sûr, il y a beaucoup de rumeurs sur lui, mais un joueur qui ne prolonge pas, la Romain n'arrive pas à trouver l'accord. La Juve arrive, mais quand même un très bon contrat sur la table. Ça fait réfléchir. Après, à la Juve, t'as déjà eu des Higuain qui sont allés.
Bien sûr, bien sûr.
À un certain moment,
Florenzi, ça fera plus mal, je pense.
Bien sûr, c'est comme De Rossi, c'est comme Totti. Lui, doit poursuivre dans cette histoire.
Ils ne sont pas allés. Donc,
Des fidélités.
Merci, Simone.
C'était un plaisir.
Reviens quand tu veux, t'es chez toi, bien sûr. Dans quelques instants, après avoir clôturé ce chapitre Ligue des Champions, on va parler des supporters des Ultras. On vous attend au 32-16. Y a-t-il trop de répression? Le dialogue est-il inexistant? Ou bien finalement, est-ce que la situation est mieux cette année que l'année précédente et les années encore d'avant? On va faire le point. On a quelques chiffres à vous livrer. Et puis, on a des témoignages à vous faire partager, les invités que l'on va accueillir dans quelques instants. Je rappelle qu'en Ligue des Champions, Séville et United font 0-0. Et que le Shakhtar bat la Roma 2-1. On se retrouve tout de suite dans l'After sur RMC et sur BFM Sport.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Daniel Riolo, Jérôme Rotel, et nous ouvrons le dossier ultra. Enfin, nous réouvrons le dossier ultra. Daniel en a parlé lundi, c'était un de ses amis tranchés. Et il se passe beaucoup de choses dans les tribunes en ce moment. Banderoles diverses et variées contre la Ligue, garde à vue, interdiction de stade qui ne sont pas respectées, notamment concernant les supporters bordelais. On a deux interlocuteurs, messieurs, ce soir pour en parler. D'abord, James Roff, qui est porte-parole de l'ANS. James, bonsoir.
Toi aussi, ça fait nom de vedette, un peu comme Alice Becker. James Roff, c'est un acteur hollywoodien.
James Roff.
Alors déjà, c'est quoi l'Association Nationale des Supporters, James, si tu veux bien nous expliquer?
C'est une association qui regroupe en gros des associations et des groupes de supporters. Alors, majoritairement ultra, ça c'est un fait. Après, le but, c'est quand même de réunir des associations ultra et non ultra. Donc là, actuellement, on est à peu près pratiquement à 40 associations. Après, au-delà des associations qui sont membres, on discute avec tous les groupes qui veulent bien discuter. Bon, il y en a quelques-uns des fois.
Il y a des associations connues qui sont pas membres, qui refusent d'être avec vous.
Or, qui, par exemple, à Bordeaux, Marseille, Lyon, clairement, les associations ne font pas partie de l'ANS.
Pour et pourquoi elles refusent?
Bah après c'est pas tant que ils partagent pas nos idées et la philosophie, généralement on a plutôt des bons échos par rapport à ce qu'on fait, mais c'est juste un choix. Alors des fois c'est parce qu'ils ont des relations avec leur club, que ça leur va très bien et qu'ils voient pas comment s'investir. Après il y en a d'autres qui ont vécu d'autres épisodes d'union et de discussion, donc ils restent un peu plus en retrait. Et puis après il y a des situations particulières où voilà.
Vous êtes un interlocuteur reconnu par la Ligue?
Ah ben de toute façon, on est reconnu, on fait partie de l'instance nationale du supporterisme, on est reçu à la Ligue, et puis on est même reconnu au niveau de l'UEFA, puisqu'on fait partie du réseau européen qui s'appelle Football Supporter Europe. Donc là, tout ça, c'est officiel.
Hein, toi, là-bas, tu fais partie d'un mouvement ultra, d'un club en particulier?
Alors non, moi, je fais partie d'une association de supporters du PSG, qui est plus sur les questions de gestion des supporters, défense des droits, etc. Après, oui, j'ai vécu de longues années. Enfin, j'ai commencé dans les années 80, donc j'ai été pendant longtemps dans les tribunes.
Mais votre association, quand par exemple à Marseille, comme ce week-end, il y a toutes les banderoles, le message, j'imagine vous le comprenez, vous partagez ce qui est dit sur les banderoles, mais le fait qu'il ne soit pas avec vous au sein de la représentation de l'ANS, c'est pas un problème, ce ne serait pas bien qu'il y ait... Après, je peux comprendre qu'ils aient envie d'être totalement indépendants s'ils sont dans le dialogue avec leur club. Mais pour qu'il y ait plus de poids, non? En tout cas, ce qu'eux disaient, vous le comprenez, vous partagez ce qu'ils disaient.
Il y a deux choses. Sur le fait qu'ils ne soient pas membres, le but, nous, c'est de fédérer tout le monde. Ça, c'est clair et net. Oui. Plus on est, mieux c'est. Après, il ne faut pas se leurrer. En plus, il y a quand même des gros clubs où il y a plus de problématiques. Donc, c'est logique qu'ils soient partie prenante dans les discussions. Après, sur cette journée-là, avec les banderoles, là, de toute façon, c'était une action qui était partagée par tous, au-delà de l'ANS. C'est-à-dire que vous avez tous les groupes de l'ANS qui participent à cette action. Vous avez vu des banderoles à peu près dans tous les stades, et vous avez aussi les groupes de supporters qui ne font pas partie de l'ANS.
Alors,
il y a une concertation malgré qu'ils ne soient pas membres.
Ah, d'accord.
On accueille Florian Brûlé, qui est un des porte-parole des Ultramarines, groupe d'Ultra Bordelais. Florian, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous faites particulièrement parler de vous ces derniers temps, vous les Ultra Bordelais, puisqu'il y a eu différentes interdictions de déplacement qui vous concernaient, et malgré tout, vous avez bravé ces interdits aller...
Ça risque de se transformer en interdiction de stade.
Pour aller, par exemple, à Strasbourg, où certains d'entre vous ont fini en garde à vue. Je ne sais pas si Florian, tu as été parmi ceux qui ont fini en garde à vue à Strasbourg.
Oui, j'y étais.
Tu étais. Après, il y a eu Nantes, il y a eu Marseille. Avec à chaque fois différents épisodes. On va pas tout redécrire ici, mais ceux qui suivent tout ça le savent très bien. Petit point, parce que aujourd'hui, les supporters dans leur globalité focalisent leurs revendications et leurs courroux contre la Ligue.
À un moment, paradoxalement, où la Ligue a essayé de mettre plein de... comment dire, d'ouvrir plein de pistes de dialogue.
On a quelques chiffres.
Comme Florian, rarement ça a été fait avant.
Florian, quel est le... Aujourd'hui, vous en voulez à qui? À la Ligue ou alors au préfet qui... parce que ce sont les préfets qui font les interdictions de déplacement, c'est pas la Ligue.
Non, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Je voudrais simplement déjà rebondir sur ce que vous disiez précédemment. C'était très intéressant, mais il faut l'expliquer un peu plus précisément. Il y a eu la coordination nationale des ultras au début des années 2000, qui a regroupé toutes les tribunes majeures, avec des fortunes diverses, mais ça a été réexisté et malheureusement ça a échaudé certaines tribunes majeures. Aujourd'hui, ces tribunes majeures ne se retrouvent pas forcément, ne sont pas adhérents à l'ANS, mais elles soutiennent, que ce soit à Bordeaux, Saint-Etienne et je pense aussi Marseille, on a tous une cause commune. Donc l'ANS aujourd'hui fait du lobby, fait du juridique et est reconnu, je pense, aujourd'hui par l'ensemble du paysage ultra-français. Voilà, ça c'était une précision importante. Après, au niveau de la Ligue c'est pareil, ça fait très longtemps qu'on est en discussion avec eux, et notamment avec la CNU, il y avait eu beaucoup de réunions avec Kyriez, avec Ramayad, il y a eu beaucoup de promesses, ça a toujours été des débats fort sympathiques, parfois avec des petits fours, avec des apéritifs, mais c'était plus par politesse, il n'y a jamais eu d'actes vraiment forts qui en sont ressortis.
Là, il y en a des actes forts, Florian. La Ligue et les tribunes debout, ils sont pour. Attends,
mais très bien.
La Ligue, ils ont un problème aujourd'hui, c'est les fumigènes.
Elles sont déjà debout. Les fumigènes, c'est partie des sujets où il va falloir négocier d'une manière ou d'une autre.
Ah bah la Ligue ne veut pas négocier sur les fumigènes. C'est le point.
Parce qu'ils disent c'est interdit et on ne reviendra pas là-dessus.
Se mettre autour d'une table sans volonté de négocier et d'arriver à des compromis, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre autour d'une table.
Oui, mais Florian, tu n'as pas l'impression quand même qu'il y a des pas importants qui ont été faits par rapport à
tout début
des années 2010 et à l'époque justement Thierrier d'avant où on était... Moi, j'ai quand même... Alors, peut-être je me trompe, James, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'avancées. Quand je les entends dire aujourd'hui, on réfléchit aux tribunes debout...
Les interdictions de déplacement sont en augmentation.
Oui, ça c'est autre chose. Est-ce
non, c'est faux. Voilà. Attends, j'ai les chiffres, Florian. 2016-2017, 38 interdictions sur toute la saison. Aujourd'hui, après 26 journées, on en est à 10. Donc non, c'est faux.
Mais c'est encore 10 de trop. C'est encore 10
Non, mais donc, Florian, on avance quand même. Ouais, enfin, là, je trouve qu'il y a des choses qui sont positives.
James, là-dessus, sur les interdictions de déplacement.
Alors, sur les interdictions de déplacement, maintenant, ils ont trouvé les restrictions. Bon, c'est un débat qui mériterait longtemps sur les interdictions, mais là, il y a toujours les interdictions. Le problème aujourd'hui...
Il y en a moins.
Non, mais le nouveau problème, c'est qu'aujourd'hui...
Alors, tu reconnais qu'il y en a moins.
Alors, juste si je peux préciser, parce qu'en fait, la question que vous posez tout à l'heure, c'est par rapport à la Ligue. La Ligue, aujourd'hui, avec la nouvelle présidente Nathalie Bois de la Tour, honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a aucun souci, ça, il faut le reconnaître. Par contre, on a aujourd'hui de la commission de discipline qui prend des décisions, les mêmes qu'il y a 20 ans, et il n'y a pas possibilité de discuter là-dessus.
La commission de discipline, tu veux dire quand ça aboutit à des huis clos ou à des fermetures de tribunes.
Pas seulement, puisque là, si on prend le cas de Bordelais, je pense que Florian pourra vous en parler, il y a une décision de la commission de discipline qui entraîne une interdiction de déplacement. C'est-à-dire qu'ils viennent se rajouter au problème qu'on a avec les autorités. Mmh. Aujourd'hui, la discussion qu'on a, elle est simple. On sait que toutes ces mesures qui sont prises par la commission de discipline, elles ne plaisent à personne, elles sont inefficaces depuis 20 ans. Mettons-nous autour de la table, ça a déjà existé, c'est fait ailleurs. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Et on réfléchit non pas à légaliser des choses ou à donner une impunité aux supporters, mais à réfléchir aux sanctions adaptées et qui sont de plus avoir les mêmes.
Oui, après, il est possible qu'ils fassent un pas, j'ai pas l'impression qu'il y
aujourd'hui, aujourd'hui, c'est niet.
Donc on a sur quel sujet précis c'est niet?
Sur ce que je dis, c'est-à-dire faire un moratoire et mettre tous les acteurs autour de la table, pas seulement les supporters, puisque les clubs sont concernés et les clubs.
Sur quand il y a sanction de que ça ne débouche pas sur tribune fermée, tribune vide, ce genre de truc.
Trouver des sanctions adaptées. Généralement.
Alors quelles sont les propositions de l'ANS?
Alors ce qu'on estime, c'est que tout le monde doit se mettre autour de la table et chacun doit faire des propositions et trouver un compromis. Nous, on a des propositions. Par exemple, on regarde évidemment vers les modèles scandinaves où eux, ils vont plus regarder les moyens qui ont été mis en œuvre, par exemple, pour empêcher des fumigènes ou des pétards de rentrer illégalement, plutôt que ce qui est arrivé au final, c'est-à-dire le comptage. Ah, combien il y en a? Il y en a 100, il y en a 50, il y en a machin. On sait très bien qu'en plus, dans les faits, les grilles de sanctions, il y a une espèce de négo qui se fait en off, qui est totalement opaque. Personne ne connaît les trucs. Et au final, on en a compté 100. Arrivé après la négo, je t'en compte 50. Et puis, ça, c'est pas possible. On est en 2018. On peut plus être dans l'opacité. On peut plus être dans une popote à 4. Alors, par exemple, quand on dit l'obligation de moyens, quand vous avez un club qui a sensibilisé ses supporters, que ses supporters eux-mêmes ont passé des messages, qu'ils essayent eux de faire en sorte de passer des messages dans la tribune, quand vous avez des moyens de sécurité, de fouilles, enfin, que tout le monde a mis du sien, qu'il y a eu de la pédagogie qui a été faite, ça doit être pris en compte. Quand vous avez effectivement...
Comment ça, je comprends, ça doit être pris en gros, en amont, en dehors du stade, les messages ont été passés, et comme les messages ont été passés et que la majorité ne voulait pas que le fumier rentre, quand il y en a 20 qui rentrent et que derrière il y a sanction, vous dites, mais non les gars, nous on avait quand même dit qu'à un moment...
Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, je vais vous donner un exemple précis. Vous avez un cas d'un club où l'association a vraiment fait de la pédagogie, du lobbying, notamment pour les pétards, parce que nous, c'est un vrai problème, c'est les pétards, les fumiers. Bon, ça, on aimerait qu'il y ait plus d'expérimentation et que ça soit mieux cadré et que ça soit possible de le faire. Mais pour les pétards,
ça c'est la ligne Jérôme. Mais...
pour les pétards, ça on est con. Ouais. C'est dangereux. En plus, il y a des trucs qui viennent de l'Est et tout. Enfin, c'est un sujet qui est dangereux. Aujourd'hui, par exemple, sur cet exemple-là, il y a une association de supporters, le club fait des efforts, ils font de la pédagogie, ils essayent d'expliquer que ça c'est interdit, Omega, tout le monde prône que c'est interdit, on demande de pas le faire, etc. Mais un match, c'est télévisé, deux pétards, machin, commission de discipline, allez, vous me donnez une sanction, le club pour avoir une sanction moins grande sanctionne ses supporters qui eux font de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils sont.
Tu veux dire que
excuse-moi James, mais si sur la route c'est limité à 90 et puis t'as dit au mec qui conduit, bah s'il te plaît, va pas à 90, il va à 90, bah c'est la loi.
Tout à fait, nous c'est ce qu'on demande, c'est-à-dire le mec qui a roulé à 90 qu'on le sanctionne, mais pas le gars qui a dit à ce mec-là évite de le faire, parce que là c'est, le problème c'est qui on cible.
Et alors comment tu peux faire? Alors tu cibles le gars en question et tu le sors et tu lui mets une IDS à lui.
Ben, on est en 2018, il y a des caméras partout. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de cibler et qu'après on se retrouve à quoi? À se limiter à quoi? À faire des sanctions collectives. Franchement, les sanctions collectives, c'est quoi? C'est
non, parce la qu'on sanction pas collective capable. Du stade vide et tout. Si effectivement on est dans le cas de 20 mecs qu'on pas respecté le truc alors que les associations ont fait passer le message. Parle. Oui, là moi je suis d'accord. Moi je trouve que là on n'en peut plus de ces stades c'est avec ces sanctions là. Si on arrive à trouver le moyen de faire autrement, ouais, je suis d'accord qu'il faudrait le faire. Si on peut cibler les mecs qui l'ont fait, sauf qu'après, alors, si dans les gars en question, t'as des leaders d'assos et tout, ça va être...
Florian Brunet,
peu importe quoi tu dis.
Vous voyez bien l'espèce de vent de révolte qui est venu un petit peu de partout en France avec toutes ces banderoles qui sont quand même construites, réfléchies, vous voyez bien qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut le regarder en face. Aujourd'hui, nous, le mouvement ultra, on a l'impression d'être spolié de notre image, de notre travail. Moi, j'ai vu, pendant le tifo de nos 30 ans, j'ai vu pendant des semaines et pendant des mois, voir des jeunes de 20, 25, 30 ans, H24, sur un tifo, pendant des semaines et des mois, pour un résultat magnifique que tout le monde a trouvé extraordinaire. Et ces mêmes garçons, je les vois pendant 18 heures en garde à vue parce qu'ils ont voulu aller voir un match. C'est la représentation du problème. C'est-à-dire qu'on utilise notre image, on utilise notre travail. En plus, on est bénévole, on demande rien. On n'est même pas respecté. Il y a à Saint-Étienne, il n'y a pas de Marseillais. Pour le déplacement des Marseillais à Paris, il y a des restrictions. Vous me dites que ça va mieux, mais tous les week-ends, il y a des interdictions de déplacement, il y a des restrictions. Tous les week-ends, on est accueilli dans des conditions déplorables dans tous les stades où on va. Quand on est accueilli, je veux dire, le fond du problème aujourd'hui, il est là. C'est qu'on est des parties prenantes de la Ligue 1, on est des acteurs majeurs, on utilise notre image. À Bordeaux, il y a parfois 15 000 spectateurs. 30% des spectateurs sont condensés dans le virage chute. Sans nous, il n'y a rien. À Geoffroy Guichard, sans les Magic Fans, sans les Green Angels, il n'y a rien. Et à côté de ça, on n'est pas respecté, on n'est pas écouté. Le fond du problème, il est là. Et
à alors côté là-dessus, Florian, je vais te dire, nous, dans l'after, on a toujours.
J'entends ton message.
Exactement, quand tu dis que vous êtes partie prenante de la Ligue 1, c'est tout à fait vrai. L'ambiance dans les stades, dans la méga majorité des cas, c'est les ultras qui la mettent. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Qu'on soit respecté à notre juste valeur, c'est tout ce qu'on demande.
Après, quand on regarde objectivement, quand il y a des risques. Pour la sécurité publique lors d'un déplacement qui est une interdiction, ça peut aussi se comprendre. Quand il y a une rivalité historique,
c'est vrai qu'elles sont
tombées
de façon
un peu... Alors il n'y a pas de risque d'accueillir le locomotive Moscou à Nice. Il n'y a pas de risque d'accueillir le locomotive Moscou à Nice. À Nice, c'était les hooligans qui étaient avec les Russes pour l'Euro et qui ont mis la panique à Marseille pendant 2 jours. Et on les accueille sans problème. Je veux dire, mais tant mieux qu'on les accueille. Mais alors à ce moment-là,
il n'y a pas eu de problème à Nice, vraisemblablement, la semaine dernière.
Ouais, mais enfin, attendez,
à moins qu'il y en ait qui nous aient échappé.
D'accueillir des groupes qui sont, mais on nous prend pour ce qu'on n'est pas. Je veux dire, le mouvement français, c'est des gens qui garçons. À côté de ce qu'on peut trouver, ne serait-ce qu'en Italie ou même en Allemagne. En Allemagne, il y a bien plus de problèmes qu'en France.
Alors, faut quand même préciser un truc, c'est que parfois il y a des interdictions de déplacement qui sont aussi décidées par des préfets, tout simplement pour des problèmes de mise à disponibilité de forces de l'ordre. C'est justifié comme ça.
Je veux dire, ce sont pas des gens dangereux. Ce sont pas des gens dangereux. Alors évidemment, quand on draine 500, 1000, 1500 personnes dans un déplacement, que ces gens-là viennent faire la fête, viennent chanter pendant 90 minutes, donnent bénévolement de leur temps pour faire des tifos, etc., forcément, à un moment donné, il peut y avoir un petit débordement. Mais il faut arrêter de nous prendre pour des fous furieux. Je veux dire, la violence du mouvement ultra-français, elle est mineure.
Donc regardons plutôt tout ce qui se fait de bien, les magnifiques tifos des Magic, les magnifiques tifos d'Arceta, les magnifiques tifos qu'on voit tous les week-ends, au lieu de nous parler tout le temps des incidents. Quels incidents? Quels incidents? Le mouvement ultra-français n'a aucun blessé grave, aucun mort sur la conscience. La Ligue peut pas en
mieux. À une époque, il y a eu des, y a eu des débordements, mais ça fait longtemps qu'il y en a.
Non, mais je vais
mais il y a eu des problèmes graves. Mais là, c'est vrai qu'on est trop.
Porte-parole de l'Association nationale des supporters. Vas-y.
Je vais compléter ce que dit Florian. Déjà, bon, on parle de ce que demandent les supporters, etc. Je voudrais quand même rappeler, parce que tout à l'heure, ça a été évoqué, qu'il y a des travaux qui ont été faits. C'est-à-dire, nous, on n'arrive pas avec rien. Et c'est même pas les supporters qui l'ont fait. C'est la Ligue qui les a fait. Il y a un rapport Paquette en 2004. Il y a un livre vert du supporterisme en 2010. En gros, déjà, ne serait-ce que reprendre les travaux et les préconisations que faisait la Ligue et le ministère, ça serait déjà un bon début pour commencer à discuter.
À ce stade-là, je résume un petit peu ce que tout le monde dit entre Florian et toi. Les choses vont. Alors, vous n'êtes pas encore satisfait de la situation, mais les choses vont globalement dans le bon sens. Il y a moins d'interdiction de déplacement.
Il y a quand même quelques avancées.
Non, il y a pas de dialogue. Il y a des personnes qui se retrouvent à la même table. C'est quelque chose de totalement différent.
Il y a un référent supporter par club désormais. Vous parlez à la Ligue.
C'est un truc qui existe, le référent supporter.
Alors, c'est justement nous, c'est vraiment un sujet, si vous voulez, qui montre le problème qu'il y a dans le. Nous, ce qu'on critique, c'est l'inertie qu'il y a à la Ligue. C'est-à-dire que si vous prenez le référent supporter.
Dire inertie à la Ligue quand on sait les années qu'il y a eu avant. Là, il y a quand même des mecs qui essayent vraiment de bouger, de faire des trucs. Alors peut-être
on a les mêmes,
interlocuteurs
avec les mêmes discours. Alors, si je mets à part la présidente, évidemment, quelques nouvelles personnes, on a les mêmes interlocuteurs avec les mêmes discours qui vont nous dire quoi.
Ils sont prêts à discuter sur tout, sauf sur les fumigènes.
Quelle discussion? Alors, attention. Une discussion, ça dépend ce que vous appelez du dialogue. Si moi je viens et je dis, moi c'est comme ça, et de toute façon il n'y a pas à discuter, voilà. Et puis ou t'acceptes ou t'acceptes pas, si c'est ça le dialogue, moi j'ai une autre conception du dialogue. Et en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus, il y a 20 ans, il y a des exemples à côté, il y a déjà des choses qui existent. Donc aujourd'hui, nous on n'invente rien, on est en train de montrer des choses qui se passent à côté. Et là, on a du mal à les faire bouger. Sur le référent, la loi, elle est de quand? Ils viennent de publier un mini communiqué d'une page expliquant ce qu'est la nouvelle loi.
Je l'ai, loi du 10 mai 2016.
On est en 2018. Nous, on est une association, on est des bénévoles. On a déjà un livret qui fait plusieurs dizaines de pages sur notre site depuis des mois. C'est nous, association, qui devons militer pour la mise en place. On discute avec les clubs sur la mise en place. À un moment, nous, la question qu'on pose, c'est, attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes censé travailler pour les clubs ou vous défendez une position de la Ligue? Aujourd'hui, les clubs, il n'y a pas de souci. Il y a des clubs qui avancent et qui travaillent bien. Vous parliez de Strasbourg. Prenez le cas de Strasbourg. Il y a un référent, ça marche bien. Ils bossent pourquoi? Ils le font tout seuls.
Après, James,
Ensuite, un accent qui veut intervenir
sur le déplacement, parce que.
Oui. Alors, ça, sur les effectifs, ça, j'aurais un mot à dire aussi.
C'est. Ouais, mais. On est en France dans une situation très compliquée en ce moment. Mmh. L'argument, Gilbert l'a dit tout à l'heure, de dire il n'y en a pas assez, la plupart des policiers sont épuisés, que ce soit compagnie de CRS et tout, et ont peut-être pas les moyens de s'occuper de mecs en déplacement, même si ce sont pas des sauvages, comme disait Florian. Il y a d'autres domaines de l'activité sociale en France où il y a des problèmes parce que la police n'est pas dispo ou peut pas aller régler tout. Donc qu'on dise on va interdire le déplacement supporter, même si parfois c'est un peu systématique. Et je suis d'accord, quand t'as pas les supporters adverses dans un stade, dans certains matchs, ça peut. Bon, est-ce qu'on peut pas s'asseoir dessus pendant un certain temps? C'est une question que je pose. Je sais pas.
Oui.
Là, je me demande, vu la situation de la France, on est en état d'urgence encore, il me semble. Je crois que ça n'a pas été levé par le gouvernement. Ou quand bien même, on sait que c'est un peu compliqué et que les effectifs sont épuisés. Bon, voilà, sur ce point-là. Après, sur le reste, oui,
j'aimerais qu'on accueille Maxence, les gars.
Je suis dans ton sens.
On reçoit beaucoup d'appels au 32-16. C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos afteriens. Maxence, bonsoir.
Bonsoir. Vous allez bien?
Ouais, ça va, bonsoir. Et toi?
Ça va très bien, ça va très bien.
Toi, tu fais partie des winners et tu voulais nous parler de la Ligue.
Ouais, je voulais vous parler de la Ligue, en fait, parce que depuis tout à l'heure, je t'entends, Gilbert, dire que la Ligue ne veut pas bouger d'un iota, en fait, sur les fumigènes. Mm-hmm. Faut savoir que depuis quelques jours maintenant, et c'est le cas à chaque Classico, sur leurs réseaux sociaux, ils relaient des images des teasers de Canal+, avec des supporters en furie, des supporters qui craquent des fumigènes, etc. Et après ça, tous les jeudis, ils se réunissent pour nous suspendre pour ce genre de choses.
Oui, ça, c'est l'hypocrisie, Maxence. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça donne l'impression que la Ligue, elle a une double face, quoi. C'est très bizarre. Ouais. Là, je suis d'accord.
Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace par rapport au message que t'as relayé ce dimanche soir, je crois, après le match. Ouais. J'ai écouté un podcast. du message de la vieille garde. Faut savoir que nous, demain, les winners, on passe en commission, en fait. On a deux matchs de sursis. Et justement, on passe en commission par rapport à des fumigènes face à Monaco. Et donc, dans leur logique.
Pour les fumigènes, pas pour les messages que vous avez passés sur les banderoles.
Non, pour les fumigènes face à Monaco. Et, donc, c'est la deuxième chose, en fait, que je voulais dire. C'est qu'on passe donc en commission, on a deux matchs de sursis dans leur logique de sanctions. Donc, on devrait avoir les deux matchs qui devraient tomber. Sauf que dans leur bipolarité, ils vont forcément pas nous donner le deuxième match, vu que le deuxième match, ça nous suspendrait face à Lyon, et que dans leur politique commerciale de diffusion à l'étranger, etc., ils vont pas nous mettre ce deuxième match. Donc,
enfin, Maxence, excuse-moi d'aller sur ce terrain, mais tu reproches cette politique commerciale à la Ligue. Je crois que c'est les supporters marseillais qui étaient prêts à faire un tifo commercial il y a quelques jours, non?
Ben justement, il y a eu une levée, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à ce truc de Netflix, c'était n'importe quoi. Après, faut savoir, bon, je peux pas rentrer dans ce jeu-là, mais faut savoir que c'était fait par les Yankees et que c'est de moins en moins représentatif, les Yankees. Donc, mais bon, faut pas rentrer dans ce
truc-là.
Non,
Maxence, moi j'entends ton discours. Il y a quand même des dossiers qui sont très compliqués. Il y a celui-là du double discours de la Ligue qui, parce que tu vas vendre un match qui va être diffusé dans un championnat à l'étranger, tu vas pas mettre la sanction ce jour-là pour que le stade soit plein. T'as des clubs qu'on peut soupçonner en ce moment d'être de plus en plus proches de ses supporters parce qu'ils ont besoin de l'ambiance sur des gros matchs, et peut-être même de se dire on s'en fout si on va payer une amende tant qu'il y a une grosse ambiance, et s'il y a quelques fumites craquées, on va fermer les yeux. Il y a effectivement pas mal de double discours un peu partout, dans certains clubs. La Ligue se retrouve au milieu de tout ça. Ça doit pas être simple tous les jours non plus pour elle d'y voir clair là-dedans. Bon courage pour Alinego, parce que franchement, dans ce paysage-là, avec les intérêts des gens qui sont divergents selon les moments, les affiches, les matchs, les intérêts des uns des autres, c'est quand même assez compliqué. Mais il y a pas mal de faux curie générale, je suis d'accord avec vous quand même.
Je vous propose,
et avec ce qu'a dit Maxence avant, le mec de Marseille,
qu'on réouvre le dossier bientôt, parce que c'est un sujet, c'est une sorte de feuilleton.
Le truc, c'est qu'on peut l'ouvrir souvent, mais on dit souvent les mêmes choses, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie.
On avait des choses à dire ce soir. Il y avait des chiffres quand même importants à donner ce soir.
Enfin, je pense que
le mot de la fin,
ça demanderait du temps, mais là, on est vraiment à un tournant, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et il y a les bonnes personnes pour entamer des discussions. Et aujourd'hui, le fait que des médias s'intéressent un peu plus à ça, au moins ça oblige le débat et la discussion. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des médias, on n'aurait pas les gens autour de la table. Donc déjà, c'est un
problème.
Après, je vais juste dire
d'ailleurs là-dessus, excuse-moi James, mais moi j'apprécie notamment que Florian et d'autres s'expriment, parce que nous, régulièrement, on n'arrive pas à faire parler les ultras, parce qu'ils veulent pas. Là,
normalement, l'ultra parle pas.
Le fait d'avoir Florian en ligne, c'est super, parce qu'au moins on peut dialoguer. Il y a souvent des groupes avec lesquels je prends l'exemple des Bad Gone à Lyon.
Alors, eux, c'est particulier parce que eux, ils sont, c'est bouclé par Olas.
Mais ça, c'est
Olas, ils bouclent tout. Ils sont dans leur monde à eux. Et de toute façon, ils n'entreront jamais dans un cachet.
Florian, tu voulais rajouter un dernier truc?
Un point positif, pardon.
Oui, j'ai plus de phrases. Interdire des déplacements, c'est plus coûteux en personnel policier que l'autoriser.
Ça, c'est vrai.
Clairement. Chaque fois qu'ils déplacent, vous êtes obligé d'arrêter plein de supporters qui sont venus par leurs propres moyens. Il faut surveiller tout ça. Ça demande plus de moyens. Donc, l'histoire des forces de l'ordre disponibles, ça tient pas. Après, sur les fumigènes, aujourd'hui, c'est devenu un élément de rébellion. L'interdiction n'a fait qu'accentuer le problème. On est obligé de se mettre autour d'une table et de discuter. Et même à l'intérieur du mouvement ultra, il va falloir discuter au niveau des fumigènes. Mais en tout cas, l'idée majeure, elle est là. On se sent pas respecté et pourtant, on mérite le respect.
Bon, voilà. Le message est passé. Florian Brunet, merci beaucoup. Ouais. James Roff, merci beaucoup également.
Merci à vous.
D'être venu donc porte-parole de l'ANS. Florian était le porte-parole des Ultramarines Bordelais.
Tu voulais juste dire un truc sur les Bengals?
Non,
voulais...
non,
non,
on n'a plus le temps.
Il y a des vraies discussions qui sont faites. Notamment, on peut discuter sereinement des interdictions de déplacement.
Donc, si tu respectes pas les discussions...
Pardon,
tu as
c'est ma faute, c'est moi qui l'ai lancé.
Ça, la prochaine fois, je vous ai.
Allez, à tout de suite dans l'after pour parler notamment de Ranieri, qui était l'invité de Team Duga tout à l'heure.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jean Montaigne est là, Daniel Riolo également. Allez, il nous reste 4 minutes ensemble. Ranieri, parlons-en, il était dans Team Duga tout à l'heure. Alors, il a dit qu'il était intéressé par la sélection italienne.
Très étonnant.
Kita a dit qu'il ne le retiendrait pas.
Très étonnant.
Mais de toute façon, ça se fera à la fin de la saison si ça se fait, hein, pas maintenant. Donc tout ça se fait entre gentlemen. Et puis Claudio Ranieri a également, chez Team Duga, expliqué qu'il avait lui une idée très précise du rôle que doit occuper Verratti. Pour lui, Verratti, bah, c'est un numéro 6. Écoutez.
Et je pense que la position idéale pour Marco, c'est la sentinelle.
Moi aussi.
Oui. Et donc, récupérer le ballon, il passait le ballon très vite parce qu'il a un bon...
Mais il ralentit le jeu, coach.
Oui, il doit améliorer là. Parce que quelquefois, il tient beaucoup le ballon.
Trop même.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Voilà, il répondait à Manu Petit. C'est intéressant ce que dit. Parce que ça va pas dans le sens. Du vent.
Le sens du vent, c'est quoi? C'est moi aussi. Je pense que souvent il touche trop le ballon et qu'il devrait améliorer ses transmissions. Sa position, c'est que de toute façon, si tu le mets 6 comme ça, il faudra qu'à côté de lui, il y ait un mec. Bon. Faisons, puisque c'est comme ça que Verratti est arrivé dans le football, en Italie en tout cas, c'était le nouveau Pirlo. Sauf que Pirlo, dans le Grand Milan, il joue avec à côté de lui deux mecs qui cavalent à mort, qui en gros vont lui servir un peu de bouclier, même en sélection d'Italie. Il y avait Gattuso, à Milan il pouvait y avoir des mecs comme Ambrosini, c'est des mecs qui étaient là et puis qui les serraient les boulons.
C'est pas la même qualité de passe. Je suis désolé, hein, mais comparer Pirlo et Verratti, c'est impossible.
La comparaison pour le poste, je te dis, et pour le profil de joueur, ça veut dire principalement technique. C'est-à-dire le mec, c'est pas le gars qui va aller dans le combat. Tu vois ce que je veux dire? La sentinelle, c'est soit t'as le choix, t'as un mec qui est capable de réguler le jeu et qui va être costaud, façon Busquets, Casemiro, Real, et c'est les deux qui sont à côté qui vont organiser le jeu, qui vont être un peu plus techniques. Soit c'est lui, mais alors dans ces cas-là, il faut qu'il ait un jeu long parfait. S'il est 6, falloir qu'il ait une meilleure qualité de passe, comme tu dis. Et pour jouer, Paul Scholes avait cette faculté à jouer long, jouer court, jouer un peu comme il voulait.
On s'enferme.
Ça va pas être simple pour lui.
Non, mais on s'enferme souvent sur le. Alors déjà le terme sentinelle, parce que bon, voilà, c'est apparu il y a quelques années dans le football. Oui. Avant, ça, on n'en parlait pas du tout.
Sentinelle, c'est quoi? C'est le gars qui protège la défense.
Voilà, c'est Laurent Blanc qui a sorti ça en premier.
Ouais. Ouais, non mais bon, alors maintenant tout le monde le dit, donc allons-y. Donc jouer devant la défense comme ça, bien sûr que Verratti peut le faire. Il peut le faire dans le jeu, même en gardant le ballon, parce que sa protection de balle, c'est là-dessus qu'il excelle. Il en perd très rarement.
Mais il le fera pas. Il aime le petit jeu court. Il le fera pas avec Lo Celso et Rabiot ou un Draxler. Il lui fera un mec.
Où tu dois t'améliorer dans ce rôle-là de milieu dans l'axe, que ça soit tout seul ou à deux, c'est dans comment tu vas récupérer les ballons. Comme tu dis, Daniel.
Dans la rapidité à faire la passe aussi, il faut qu'il accélère quand même. Il faut qu'il aille plus vite.
Mais balle au pied, moi, j'ai pas de problème.
Non, mais pas balle au pied, mais qui les touche sur le ballon un peu trop. Là, je suis d'accord avec Ranieri. Il ralentit souvent le jeu. Ouais. Modric va plus vite. Rakitic, ça va plus vite.
Oui, mais c'est des rôles différents. C'est des joueurs différents.
On parle de milieu de terrain.
Non, mais il faut pas comparer. Ouais, parce que Kroos est comme ça, parce que Modric est comme ça, Verratti doit être comme ça. Juste pour finir,
j'ai dit, il reste pas vite. Silva, ça va beaucoup plus vite.
On s'enferme juste sur ce rôle-là en disant, voilà, comment, moi, la seule chose, comment il récupère le ballon dans le jeu quand Paris l'a pas? Par exemple, pour parler du PSG, mais il doit s'améliorer dans la lecture du jeu. Parce que lui, il ira jamais dans les duels comme un Casimiro qui va récupérer les ballons, comme
il
un Busquets qui va.
Il y va récupérer les ballons, Verratti. Souvent, il est par terre, il tacle, il en récupère beaucoup des ballons.
Jouer dans
moi,
dernier.
Je dis, c'est la rapidité de la transmission qui doit améliorer.
Demain soir, Europa League, messieurs.
Donnez-chez moi le ballon.
Demain soir, Braga OM, on aura Villarreal Lyon. Lyon doit s'inspirer de Fourcade, dit Genesio, un garçon qui gagne en restant humble. Oui, parce que Genesio a dit à ses joueurs, vous jouez que pour vos gueules. C'est inadmissible, c'était déjà comme ça à Monaco.
C'est bouillant, Diaz de Paille.
Vous avez intérêt à bouger le cul.
Il était pas loin d'en venir aux mains la semaine dernière dans le vestiaire.
Voilà, faut s'inspirer de Fourcade. Allez,
oui, mais c'est lui, on s'inspire de qui, Genesio?
De Pep.
Demain, vous serez là.
Bonne soirée.
Ah, t'es pas là, demain.
Bonne semaine à tous. Ça va me faire du bien de ne pas vous voir pendant une semaine.
C'est pas vrai.
Un peu de soleil. Ça va nous faire du bien. Amusez-vous bien.
Ah bah, mais demain soir, nous on sera là.
Mais oui, vous êtes là, fidèle au poste.
À demain soir dans l'after de la fin des matchs d'Europa League. Bonne nuit.
On va voir des grands.
RMC, le super football show, l'after foot.